Entretien avec Guillaume Musso, Paris, avril 2018.
Guillaume Musso, bonjour.
Bonjour.
La jeune fille et la nuit va bientôt sortir. C'est un nouveau roman qui est à tonalité un petit peu différente des précédents. Dans le précédent ouvrage, vous situiez l'action à Paris, un appartement à Paris.
Complètement.
Là, on est à Antibes.
Oui, sur la Côte d'Azur.
Voilà. Vous vous rapprochez de la France alors que pendant plusieurs années, vous nous dépaysiez en étant aux États-Unis. Et là, finalement, on est toujours surpris, mais vous vous êtes rapproché.
Oui, c'est le premier de mes romans qui se passe entièrement en France et plus particulièrement sur la Côte d'Azur. Pendant longtemps, c'est vrai que j'avais du mal à écrire sur un environnement qui m'était proche et que j'avais besoin comme ça de mettre une distance entre mon sujet et moi, entre mes personnages et moi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mes romans qui prenaient place à New York. Alors à la fois parce que c'est une ville que je connais bien, c'est un théâtre complètement... Enfin, vraiment fabuleux pour y situer une histoire, parce que c'est la ville dans laquelle tout peut arriver, la plus belle des histoires d'amour, l'attentat le plus atroce, le mystère le plus dense. Et petit à petit, notamment à chaque fois que je redescendais, entre guillemets, dans le sud de la France, où je suis né, où j'ai encore toute ma famille, les gens me demandaient « Mais alors, quand est-ce que tu nous écris enfin un roman qui se passe à Antibes ?» Et j'en avais très envie, mais dans les romans et dans la création, bien souvent, l'envie ne suffit pas. Il faut qu'il se passe... quelque chose, il faut qu'il y ait une étincelle et surtout il faut que, voilà, j'attendais d'avoir une histoire dans laquelle le décor devait être la Côte d'Azur et pas ailleurs. Et quand les premières images de ce livre me sont apparues, cette intrigue qui se passe dans un campus, j'ai eu l'intuition, oui, que j'avais besoin pour cette histoire, des couleurs de la Méditerranée, du bruit dans les pins, des couleurs du ciel. Voilà, j'imaginais le sentier du littoral près de la mer, escarpé. Je me suis dit, ça y est, c'est l'histoire que tu attends depuis bientôt 15 ans.
Et effectivement, la Côte d'Azur donne un cadre très cinématographique, comme un peu a pu l'être New York. On voit très bien finalement les lieux. Qu'est-ce que ça vous a fait d'une certaine manière de revenir vers le passé? Et c'est aussi le mouvement du livre.
Hein. Oui.
C'est un retour vers le passé, un retour vers les années d'études.
Absolument. C'était très agréable de se replonger à la fois dans des lieux familiers et dans une époque qui est le début des années 90, effectivement, qui était l'époque voilà, pendant laquelle j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et donc, voilà, il y a eu un double mouvement pour faire remonter à la surface à la fois des lieux qui ont parfois pas mal changé, mais pas tant que ça. La nature reste un petit peu immuable et c'est ça qui est beau aussi. Et faire ressurgir, oui, ce début des années 90 qui est intéressant dans la fiction, parce que c'est à la fois, il y a 25 ans, donc c'est à la fois lointain, mais pas si lointain que ça. Et donc, voilà, la grande différence, je dirais, enfin pour le conteur que je suis, c'est qu'à l'époque, voilà, il n'y avait pas tous les outils numériques qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas Internet. Mais il y avait déjà l'ADN, il y avait déjà... Donc c'est à la fois une époque moderne pour le polar et pour le thriller, pour l'enquête, le côté policier comme ça du roman, mais ça reste, voilà, ça reste il y a 25 ans et cette thématique là de qu'on retrouve dans les cold cases, hein, à la fois mes familières, j'en avais déjà traité un qui était la fille de Brooklyn, mais là c'est fait effectivement dans des lieux où il est beaucoup plus familier, beaucoup plus franco-français, et j'ai pris d'autant plus de plaisir effectivement à mettre en scène cette histoire.
Et alors, il y a toujours une musique enfin, qu'on retrouve de livre en livre, une atmosphère qui vous est propre. Là, on retrouve par exemple aussi le personnage du peintre
d'un appartement à Paris. Absolument.
Des petits clins d'œil au lecteur, etc. Il y a aussi une thématique finalement de est-ce qu'il faut se débarrasser du passé pour avancer? Est-ce qu'on peut racheter ses fautes?
Oui, bien sûr. Là, c'est moi, j'essaie toujours d'écrire mes romans à deux niveaux de lecture. Un premier niveau qui est simplement le plaisir de lire, d'avancer dans une intrigue, dans une enquête. Là, il y a un côté whodunit qui a enlevé Vinca. Et il y a un deuxième niveau qui est effectivement, oui, d'essayer de traiter certains thèmes à travers l'histoire. Et là, il y a effectivement, oui, le côté l'individu face à son passé, comment est-ce qu'on négocie chacun effectivement notre passé, nos souvenirs, des remords, des regrets. Alors là, c'est assez lourd dans le roman puisque c'est les personnages principaux effectivement ont tué quelqu'un et comment ils arrivent à vivre avec ça. Et c'est vrai que dans ce roman, il y a un côté un petit peu rédempteur, il y a un côté résilient, c'est-à-dire que là, la réunion des anciens élèves, 25 ans après, va servir de catalyseur à la fois un examen de pensée, mais aussi ces moments où on comprend finalement qu'on ne va pas pouvoir continuer à vivre si on ne règle pas un petit peu son passé, même si le prix à payer ici peut être lourd, puisque c'est une peine de prison qui peuvent encourir. Je pense qu'ils sont tous arrivés à un moment de leur vie où en fait leur vie est paralysée, c'est-à-dire qu'il y a un parallèle entre le paysage de neige où on a le campus qui est paralysé sous la neige en 1992 et finalement c'est les adultes qui sont devenus aujourd'hui en 2017-2018 qui restent paralysés intérieurement par ce qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient plus jeunes. Et donc ce roman c'est l'histoire de l'évolution intérieure. Alors de plusieurs personnages, hein, à la fois les trois amis, mais il y a aussi leurs parents, il y a aussi toute une communauté comme ça qui est attachée au lycée. Et en fait, lors des comptes à sonner, voilà, disons que la vérité s'invite aussi à la fête, puisqu'on commence, le roman commence par une cérémonie, le 50e anniversaire du lycée, et la vérité est aussi invitée à la fête.
Et parlons-en des parents. Les rapports avec les parents sont très centraux aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire quand vous dites, petite phrase du début, l'amour est tout ou n'est rien. Il y a l'amour effectivement pour une jeune femme, mais il y a aussi l'amour des parents, l'amour maternel, l'amour paternel.
Complètement.
Et on voit que ce n'est pas quelque chose d'évident.
J'aime bien cette phrase de Christian Bobin qui dit « c'est toujours de l'amour dont nous souffrons, même quand nous croyons ne souffrir de rien ». Effectivement, l'amour au sens large, hein, l'amour des amants, l'amour au sein du couple, l'amour filial, et tout se mêle dans ce roman, où finalement on a trois générations. On a la génération des jeunes dans les années 90, on a la génération des adultes qui sont devenus en 2017, et on a la génération des parents. Et comment effectivement les parents, eux aussi, ont voulu à la fois mener leur propre vie, aller au bout de leurs aspirations, de leurs passions, tout en essayant de protéger leurs enfants. Et c'est aussi un roman sur des personnages qui sont assez tranchés, qui essayent d'aller au bout complètement de leurs aspirations. Le narrateur est un écrivain qui va au bout de sa passion, de son art, qui ne peut vivre effectivement qu'en se protégeant, c'est-à-dire quand il écrit vraiment pour échapper à ses démons, échapper au monde, échapper à la cruauté d'un monde qu'il refuse depuis que la femme qu'il aimait a disparu. On a sa mère, Annabelle, qui est une grande amoureuse et qui, elle, effectivement, frôle parfois la folie pour se mettre en scène une histoire d'amour assez folle dont elle seule et son amant vont avoir connaissance effectivement de ça. On a un journaliste effectivement qui lui va au bout aussi de sa démarche, qui recherche la vérité coûte que coûte, quelles que soient finalement les à la fois les blessures de la vérité, les conséquences que cette vérité va permettre de mettre à jour. Et finalement, ces destins à la fois parallèles, croisés, à un moment, voilà, ces trajectoires qui vont s'entrechoquer, c'est le choc de ces trajectoires et de ces logiques qui donnent lieu finalement à l'histoire.
Oui, on est quasiment dans la tragédie antique à un moment.
Oui, il y a un petit clin d'œil, absolument, il y a ça, il y a l'unité de lieu, il y a... Complètement, je l'ai aussi pensé en faisant effectivement des clins d'œil complètement à la tragédie classique, bien sûr.
Et donc, il y a une atmosphère un peu de roman de campus, oui. Comme aux États-Unis, où on
oui,
profite pour
revisiter,
voilà, pour revisiter toute une époque et pour suivre les trajectoires des uns et des autres. Et puis, quelque chose de très, je dirais, très français, très cinématographique. Oui. On pense au cinéma, vous avez parlé du journaliste, du cinéma des années 70,
oui, c'est vrai,
au scandale immobilier, choses comme ça, à la pègre.
Oui, c'est ça. Vous avez une lecture qui est... complètement juste. C'est vrai que moi, je suis très amateur de ce genre là qu'on appelle le campus novel en littérature anglo-saxonne, hein, que ce soit des gens comme David Lodge, Donna Tartt, Michael Chabon. Et c'est vrai qu'en France, c'est pas quelque chose qui est très très développé. Et là, c'était assez drôle de transférer un campus novel, alors non pas à Harvard ou à Oxford, mais de le mettre justement dans ce lycée international qui est dans la gare X sous les pins à Sophia Antipolis. Il y a un des premiers lecteurs qui m'a dit c'est Twin Peaks chez Marcel Pagnol. Et c'est assez drôle et c'est assez juste. Et effectivement, parallèlement à ça, on est aussi sur la Côte d'Azur avec les caractéristiques des lieux, la politique, la justice, divers scandales, effectivement, l'immobilier. Et c'était drôle, c'était amusant de mélanger tout ça, d'arriver à trouver une cohérence à tout ça. Donc il y a des influences effectivement qui sont très 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 diverses, différentes. Et j'aime bien cette idée effectivement d'arriver à mélanger les genres, à écrire des romans hybrides. C'est pas un polar, c'est pas un thriller, c'est pas une saga familiale, mais c'est un petit peu de tout ça. Et j'aime bien qu'on me dise que mes romans sont inclassables. Et en tout cas, je pense que celui-là l'est. En tout cas, c'est difficile de l'étiqueter.
Oui, on ne peut pas le ranger un genre particulier, c'est certain. Et alors, il y a une question qu'on ne va pas manquer de vous poser, puisque vous revenez à Antibes, etc. Quelle est la part d'imagination et la part de souvenir que vous avez mise en jeu dans l'écriture?
Alors, c'est un roman qui est personnel, parce que c'est des lieux que je connais bien. Que j'ai l'âge des protagonistes. Après, c'est pas du tout un roman autobiographique. C'est l'un de mes romans qui finalement est le moins autobiographique. Même si j'ai eu plaisir au moment où j'écris, une empathie avec les personnages qui fait que voilà, vous êtes à la fois tous les personnages en même temps. Alors, c'était agréable à la fois de partir des souvenirs, de partir de lieux qui existent vraiment, mais de les transfigurer dans le roman. C'est-à-dire que même des lieux qui existent et que je connais, parfois dans leur description, il y a un décalage qui est le décalage finalement du romanesque pour servir l'histoire, pour servir la vision, le côté visuel, qui fait que finalement tout ça est quand même du domaine de la fiction. Heureusement pour moi, je n'ai jamais... emmurer personne dans un gymnase et sinon c'était assez excitant effectivement de mettre en scène cette histoire dans des lieux que je connais par cœur, que j'ai connus sans que ça soit du tout quelque chose d'autobiographique. Vous savez, je l'ai souvent dit, moi je ne suis pas un écrivain du moi, je ne suis pas un écrivain de l'autofiction, je suis un raconteur d'histoire. Ce qui me plaît, voilà, c'est la mécanique du récit, c'est le les personnages, mais les personnages dans ce qu'ils peuvent avoir de fascinant, c'est-à-dire pourquoi aujourd'hui on va vouloir avoir hâte de rentrer chez soi pour retrouver un roman qu'on aime, c'est parce qu'on est attaché au personnage, on veut savoir ce qui va leur arriver, on veut savoir, on veut les connaître, on veut. Et aujourd'hui, on a cet impératif, je trouve, nous autres romanciers, raconteurs d'histoires, voilà, de travailler sur les personnages, rendre des personnages complexes, qu'ils soient pas blancs, qu'ils soient pas noirs, qu'ils soient dans toute leur complexité. Pourquoi ? Parce qu'on a un concurrent qui fait ça très bien, qui s'appelle les très bonnes séries télévisées. Et pourquoi, lorsqu'on rentre chez soi, préférer prendre un roman que d'allumer Netflix, parce qu'il faut, voilà, à un moment, qu'on soit plus en attente de continuer notre histoire que de regarder une série. Donc moi j'accepte cette compétition-là, parce qu'on a la chance de vivre une époque vraiment où les gens sont friands de fiction. Ils aiment la fiction sous toutes ses formes. Et ils connaissent les codes de la fiction, ils connaissent les ficelles, et donc si vous voulez arriver à les surprendre, voilà, il y a un véritable devoir d'originalité, et qui passe aussi, voilà, qui passe par la construction de personnages complexes et mystérieux et fascinants. Oui.
Et c'est vrai que le roman permet justement de donner cette épaisseur au personnage et aussi, enfin dans les vôtres, je veux dire, d'aller vite, d'être toujours relancé.
Oui, on est effectivement dans quelque chose qui peut paraître contradictoire, c'est-à-dire à la fois un récit avec des rebondissements, moi c'est aussi ce que j'aime, mais sans pour autant négliger la psychologie, la complexité effectivement des personnages. Et c'est le plaisir d'un roman, c'est aussi d'être voilà, de faire corps avec la psychologie des personnages. Moi c'est ce que j'ai aimé au début quand j'ai commencé à lire, c'était de pouvoir pénétrer dans la tête de gens, voilà, que j'avais peu de chance de croiser vraiment dans ma vie, et d'être dans leur psyché, d'être dans leur cerveau. C'est ce que dit Umberto Eco avec sa fameuse formule: celui qui ne lit pas vit qu'une vie, celui qui vit peut en vivre 500, 1000, 5000, et c'est pas faux. Et c'est pas la même chose, un roman c'est pas pareil qu'un film. Un film, tout le monde voit les mêmes images, ça dure 2 heures. Un roman, chacun se fait ses propres images, et surtout on macère dans la pensée des personnages beaucoup plus longtemps effectivement que dans un film. Et ce sont des sentiments qui sont intérieurs. Moi souvent, enfin, je dis que j'écris des thrillers intimes parce que ce qui m'intéresse, c'est absolument pas les scènes d'action. Il y en a plus dans mes romans. Il y a plus de pas de course-poursuite, il y a même pas de policier dans ce livre-là. Donc c'est pas le thriller au sens policier, enquête, action. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les bouleversements intimes. Et c'est ça. Et donc le thriller, là, il est avant tout mental, parce qu'on est dans l'intimité, presque dans la névrose de ces personnages-là.
C'est pour ça qu'on aime bien à l'audio écouter vos romans, parce qu'il y a cette puissance comme ça, imaginative.
Absolument.
Et le fait de ressentir, d'être dans la tête des personnages ou de se laisser imaginer ça.
C'est absolument propice, effectivement, à ça. Moi, je vous l'ai dit, hein, j'avais été bluffé par le travail de Rémi Bichet, enfin, le travail de l'équipe d'Audiolib et de l'interprète sur la fille de Brooklyn, où j'avais retrouvé, c'est ça, c'est l'intensité intérieure. L'intensité intérieure des personnages, et a fortiori quand il y a un narrateur qui raconte l'histoire à la première personne. Et là, effectivement, c'était le cas déjà sur la fille de Brooklyn, et c'est le cas là, et donc ça fonctionne très bien.
Alors, vous nous invitez souvent à vos lectures, puisque vous citez, comme ça, vous parsemez vos chapitres, vous les mettez sous l'égide d'un écrivain, d'une citation, etc. Est-ce que sur ce livre, où il y a de très très belles phrases, est-ce qu'il y a une inspiration particulière, un écrivain particulier qui vous aurait inspiré pour ce livre, ou c'est toujours, vous êtes toujours aussi curieux d'explorer la littérature?
Alors oui, je suis curieux, bien sûr. C'est quelque chose que, à la fois, je garde de ma mère, qui était bibliothécaire et qui me disait tout le temps, voilà, ne sois surtout pas snob dans tes lectures, dans les films que tu vas voir au cinéma. Lis Proust et Flaubert, mais lis aussi Stephen King et Marcel Pagnol. Va voir les films de Tarkovsky, de Krzysztof Kieslowski, mais va voir aussi Les Deux Funèses, va voir Les Bronzés. Et j'ai gardé ce goût-là, ce goût très, très, très éclectique pour absolument tout. Voilà, j'aime les différents genres, j'aime... et donc, on retrouve dans ces citations-là, voilà, des goûts personnels, mais vraiment pas pour faire un télo, mais vraiment juste pour dire, pour le plaisir du partage. J'étais aussi enseignant pendant 10 ans, et partager, ça a toujours été, voilà, le savoir c'est bien, mais pour moi, le savoir, il vaut complètement qu'à partir du moment où on le partage, où les idées circulent, où un roman donne envie d'en lire un autre. Enfin, tout ça est quand même un processus cumulatif. Quand un roman, un peu comme les liens hypertexte d'ailleurs, un roman donne envie de lire un autre roman qui va vous donner envie de voir un film, d'écouter telle pièce de musique, de revenir vers un roman. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours envisagé la culture. Après, y a pas d'influence pour ce livre-là, mais c'est vraiment à la fois, c'est au confluent d'influences multiples. C'est-à-dire, vous avez à la fois des influences qui sont des influences littéraires, mais ça peut être à la fois Giono pour la Provence ou Donatarte pour le côté campus novel dont on parlait, mais aussi David Lynch et Twin Peaks à travers les séries.
Oui, des personnages doubles.
Oui,
des...
voilà. Et cette petite communauté, avec des personnages effectivement dont on connaît pas vraiment les secrets. Enfin, je sais que l'un des slogans de pub au moment où le feuilleton Twin Peaks est sorti, c'était dans cette ville, tout le monde a un secret à cacher, où personne n'est vraiment innocent. Et c'est un peu ça, mais c'est un peu ça à la fois dans mon campus. Mais c'est ça, je pense, un petit peu dans la vie aussi. J'aime bien cette phrase de Gabriel Garcia Marquez qui dit finalement « Tout homme a 3 vies, une vie publique, une vie privée et une vie secrète. Ben » Là, on est sur le territoire, effectivement, de la vie secrète de ces gens. Et c'est ça qui est passionnant aussi pour un romancier. C'est aller creuser sur ce territoire-là.
Et alors, il y a une vraie bande originale, en fait, oui, qui jalonne aussi le livre et qui permet aussi de resituer l'époque, d'évoquer des souvenirs. Et le titre, donc La jeune fille et la nuit, qui est...
qui est un petit peu un clin d'œil à Schubert, hein, La jeune fille et la mort, le quatuor. Là, c'est La jeune fille et la nuit, parce que finalement, tout prend place, les racines du mal, l'élément vraiment qui va être à l'origine de ça, c'est une nuit de 1992 où le campus est complètement paralysé par la neige. Il y a une tempête de neige qui effectivement frappe la Côte d'Azur et le campus est vide parce que c'est les vacances de Noël. Et voilà, et c'est cette nuit-là, cette nuit où il y a cette jeune fille, Vinka, qui disparaît dans la nuit. Alors on ne sait pas si elle s'est enfuie avec son prof dont elle était amoureuse, ou si elle a été tuée, si elle a été enlevée. D'où ce titre.
Et effectivement, entre la nuit et la mort,
on est entre les deux. On n'est pas loin, voilà. Et c'était la jeune fille et la mort, c'était trop... D'abord, c'était faux, parce que ça concerne pas vraiment le roman. Mais la nuit, tout le monde met ce qu'il veut derrière. On met ses peurs, on met nos peurs, on met la mort, on met... donc, je trouvais ce titre assez fort. Et c'est, j'aime, alors pour moi, vraiment, le travail sur le titre, c'est toujours quelque chose de très important. Et ce que j'aime, et là, c'était le cas, dans la plupart des romans vraiment qui me tiennent à cœur, parmi ceux que j'ai écrits, la plupart, voilà, le titre s'est imposé de lui-même, vraiment au tout début de l'écriture du roman. C'est le cas de Central Park, c'est le cas de, d'un appartement à Paris. Et c'est le cas, voilà, c'est le cas de La jeune fille et la nuit, où j'ai su que ce livre s'appellerait comme ça, avant même d'en poser les premières lignes.
Et alors, une dernière question. Est-ce qu'il y a une pression particulière du succès ? Hein, vous avez atteint le grand succès. Mmh. Est-ce que dans l'écriture, est-ce que quand vous mettez à écrire, est-ce que vous sentez, vous êtes en compétition avec vous-même, vous dites si, j'aimerais... Enfin,
si pression est là, il y a, elle n'est que bénéfique, puisqu'elle incite à surprendre à chaque fois, à travailler davantage l'histoire, les personnages, mais aussi le style, l'écriture. Mes romans d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux que j'écrivais il y a 10 ans. Je renie absolument pas mes premiers livres, parce que c'était vraiment... j'ai pris plaisir à les écrire. Ils ont amené à la lecture de nombreuses personnes. Alors les romans d'aujourd'hui sont un peu plus intériorisés. Voilà, j'espère, comme n'importe quel artisan, après 15 ans de succès, voilà, mais être toujours dans une dynamique de progression. Après, pour être honnête, au moment où vous écrivez, vous ne pouvez pas penser à tout ça, parce que sinon, ça vous paralyse. Et donc, moi, c'est très simple. Voilà, je n'écris jamais chez moi. J'ai un bureau. Alors, je pars tous les matins, j'amène mon fils à l'école et je vais... dans mon bureau, et voilà, je passe la journée là et je me remets complètement dans l'état d'esprit qui était le mien avant même de savoir que voilà qui
que vous alliez être publié,
mais
quoi.
Bien sûr, voilà, et je me raconte l'histoire à moi-même, et j'ai pas d'autres recettes que d'essayer d'écrire le roman avec les moyens qui me sont propres, que j'aimerais lire en tant que lecteur. Et donc, c'est quoi ? C'est se raconter l'histoire à soi-même. C'est pour ça que j'écris mes romans vraiment dans l'ordre chronologique. Alors que ça n'a pas été toujours le cas. Mes 4 premiers romans, je pouvais écrire, commencer par la fin, je pouvais écrire un chapitre au milieu. Alors que maintenant, absolument pas. Il y a vraiment il doit y avoir une fluidité, une logique et une montée en puissance, en intensité, qui fait que vraiment le roman est écrit vraiment dans l'ordre. Enfin, en tout cas, chaque auteur a sa méthode. Hein. Moi, je pars comme ça. J'aime bien avoir un plan, j'aime bien avoir un squelette, parce que d'abord, ça vous sécurise. J'aime bien cette image de Stephen King lorsqu'il dit, même après avoir écrit 20, 30 ou 40 livres, en recommencer à nouveau, c'est toujours compliqué, et c'est toujours comme si vous vous retrouviez pieds nus à devoir gravir l'Himalaya. Et je trouve que c'est assez vrai. Bien sûr qu'il n'y a pas de recette, bien sûr qu'il n'y a pas de... Ou alors il y a cette fameuse phrase-là de Somerset Maugham qui disait « Il y a 3 grandes règles pour écrire un roman, malheureusement personne ne les connaît. » Et c'est vraiment ça. Et donc chaque nouveau livre est une aventure avec ses peurs, ses angoisses, mais aussi voilà aussi la satisfaction une fois que vous arrivez au bout, et à chaque fois vous trouvez ça un petit peu miraculeux. Et là on est dans une période un petit peu étrange, puisque c'est le moment où à la fois voilà ça y est, le roman il est fini, le texte est rendu, vous enregistrez, voilà, le roman sera bientôt en librairie, et c'est le moment voilà où les personnages vous quittent, où le roman ne vous appartient plus tout à fait. Et c'est à la fois très excitant, parce que ben moi, j'écris pour les autres, j'écris pour être lu. Donc voilà, vous êtes dans l'attente des retours que vous allez en avoir. Et il y a cette nostalgie-là qui fait que vous dites, bon ben voilà, l'aventure, en tout cas l'aventure individuelle par rapport à ça, est terminée. Et c'est pourquoi voilà, il y a ces petits clins d'œil dans les romans qui en rappellent des précédents. Et ça, c'est tout un jeu avec le lecteur, dont, n'oublions jamais, le lecteur fait la moitié du travail, comme le rappelle Paul Auster. Voilà, tout livre est un échange presque à part égale entre le travail de l'auteur et l'imaginaire du lecteur. C'est le fameux pacte de générosité entre le lecteur et l'auteur dont parlait déjà Sartre en son temps.
Eh bien, maintenant, donc, c'est au lecteur de,
voilà,
de travailler,
absolument.
Hein, de reconstruire, absolument, de prendre plaisir. Et en tout cas, merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.
Et à très bientôt.
À très bientôt, bien sûr.